Nous avons avec nous le ministre de l'Éducation qui a tantôt rendu public les tenants et aboutissants de ces modifications pour le retour en classe. Le ministre Jean-François Roberge est avec nous. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, monsieur Mongrain.
Je vous ai chauffé les oreilles un petit peu il y a quelques semaines parce que je trouvais que vous étiez absent, mais vous avez travaillé pareil, vous n'étiez pas en vacances?
Ça fait un bout de temps qu'on a travaillé. On a ralenti à peine un peu là, le rythme pendant les journées de la pédagogie, pendant les journées de la construction, mais sinon, sincèrement, le travail s'est fait avec les partenaires, là, les cadres scolaires, les syndicats enseignants, les associations de direction d'école. Puis on arrive aujourd'hui avec un plan qui répète essentiellement les éléments du plan de la mi-juin, puis qui apporte quelques ajustements.
Non, le plan de juin n'était pas mauvais. C'est que ce qu'on se demandait, c'est que la vie étant ce qu'elle est, les choses avaient changé, puis on trouvait que ça tardait à informer les gens à deux semaines de leur rentrée scolaire ou deux semaines et demie de la rentrée scolaire, de savoir quels étaient les tenants et aboutissants de la nouvelle réalité. Là.
Voilà, mais là, aujourd'hui, on apporte les précisions, on précise tout ce qui reste, quelques ajustements. On est aujourd'hui à trois semaines de l'arrivée des élèves, et dans deux semaines, les enseignants vont revenir au travail. Donc, je pense que c'est le bon moment là pour répéter tout ce qui reste. Là, réouverture des écoles, les élèves sont là à temps plein, etc., etc. On enseigne tous les programmes, on fait pas seulement de la consolidation, mais on voit le programme.
Il y a une enseignante qui m'a appelé tantôt en ondes, puis elle a dit « Oui, j'ai écouté la conférence de presse. » Elle a dit « Moi, je suis enseignante au secondaire. Je vois 120 élèves par jour. C'est moi qui change de classe. Dans la classe, ils n'ont pas oublié de porter le masque, ces étudiants du secondaire. C'est quand ils sont dans les corridors. Comment j'agis? Est-ce que je reste masqué? Est-ce qu'il faut véritablement que moi, je protège les autres et que je ne suis pas tout à fait sûr que les autres ne me contamineront pas? »
Ben, la question du couvre-visage est importante. Ça fait partie des ajustements là, qu'on apporte parce qu'à la mi-juin, il ne faisait pas partie du paysage public au Québec. Donc, ce qu'on précise aujourd'hui, c'est que tous les élèves à partir de la cinquième année du primaire, donc le troisième cycle du primaire et tout le secondaire, portent le masque dans les corridors, les lieux publics. Même chose pour tout le personnel des écoles. Mais on peut le retirer en classe et on peut le retirer pendant les récréations.
C'est ça sa question à elle.
C'est par la santé publique et par les analyses épidémiologiques.
Je comprends. Ça, vous l'avez dit à votre conférence, mais c'est ça qu'elle demande, la dame. Elle dit, moi, je vais faire 3-4 classes de 30 personnes dans ma journée. Ils ne seront pas masqués, eux. Donc, elle doit quasiment avoir un scaphandre. Là.
Non, c'est pas nécessaire. Écoutez, on a réussi une rentrée scolaire ce printemps. Dans la moitié des écoles primaires à l'extérieur du Grand Montréal. Ouais. Et les jeunes ne portaient pas le masque, ni dans les corridors d'ailleurs. Là on en ajoute dans les corridors, là, mais ni dans les corridors, ni dans les classes. Il y avait des enseignants qui avaient des contrats dans différentes écoles. Il y avait des orthopédagogues qui se promènent d'une classe à l'autre. Et il y a eu très, très peu de cas. Là. Il y avait plus de 100 000 élèves là, dans nos écoles.
Donc,
Moi, je comprends les inquiétudes des gens. C'est normal. On est encore face à l'inconnu. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est validé par les études, mais c'est validé aussi par notre expérience du printemps.
Parfait. Parlons de ce choix que prendront peut-être des parents qui décideront que leur enfant ne va pas à l'école. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire de la télééducation? Et pour ce faire, est-ce qu'ils devront avoir un billet du médecin qui justifie le risque potentiel de l'enfant ou le risque de la cellule familiale parce qu'un grand-papa est là ou quelle que soit la raison?
Oui, très, très bonne question. Je pense que c'est une inquiétude pour beaucoup de parents. La précision apportée aujourd'hui, c'est qu'évidemment, si un enfant ou un adolescent, peu importe un élève, a une condition médicale validée par un médecin comme le mettant vulnérable à la COVID, donc évidemment, il peut rester à la maison et recevoir tous les services éducatifs nécessaires et les cours à distance. Si quelqu'un de sa famille proche qui réside à la même adresse sur cette même condition, supposons ton père est vraiment immunosupprimé, il y a un problème, donc l'enfant ou l'adolescent peut rester à la maison aussi et recevoir tous les services éducatifs nécessaires, les cours à distance, les suivis, l'accompagnement, etc.
Est-ce que c'est sur parole ou si vous allez demander un dossier médical?
Non, il faut une validation médicale parce que, vous savez, l'école est obligatoire au Québec, la fréquentation scolaire est obligatoire. Mm-hmm. On comprend que là, il y a une conditions particulières qui amènent à donner des autorisations, mais ça doit être validé par des billets du médecin parce que l'école n'est pas facultative de manière générale.
Je comprends. Ce cas-là, en l'espèce, Est-ce que ce sera un autre professeur qui, lui, sera véritablement dédié à l'enseignement télévisuel là, ou par ordinateur, et que donc l'étudiant aura un autre prof, donc une autre pédagogie possible, une autre relation que celle qu'il avait avec le professeur régulier qui, lui, va faire ça en classe?
Ben oui, effectivement, parce que il y a des enfants là, puis des adolescents qui ne retourneront pas en classe, peut-être jusqu'à l'arrivée du vaccin. Ça peut prendre 6 mois, ça peut peut-être prendre 1 an encore avant qu'ils retournent vraiment en classe, parce que ce sont des enfants qui sont vulnérables à la COVID ou qui ont quelqu'un vraiment à la maison qui pourrait l'être. Donc il peut y avoir moins d'enfants dans le réseau scolaire. Il y a aussi des enseignants qui ont exactement cette même condition-là, là, qui peuvent avoir, sont en pleine forme au moment où on se parle, mais ils ont une vulnérabilité spécifique. Et ils vont rester à la maison, mais ils vont se faire assigner de l'enseignement à distance. Donc, des profs à la maison qui enseignent à des enfants, à des élèves à la maison. Et on ajoute une annonce importante aujourd'hui, mais ce que j'appelle ma garantie qualité-équité. Oui. Ça veut dire qu'à la grandeur du Québec, peu importe votre prof, votre école, vous ne pouvez pas être malchanceux et avoir moins de services. Par exemple, dans une école secondaire, un jeune qui sera à la maison pour raison médicale, comme ça, aura un minimum de 15 heures de cours par semaine.
Est-ce que vous fournissez à tablette? Fournissez-vous à tablette?
Si les jeunes en ont une là, inutilisée à la maison, ils l'apprendront. Mais s'ils ont besoin d'un ordinateur, d'une tablette, on a tout ce qu'il faut. On a commandé pour plus de 100 millions. De dollars d'équipement à partir de la fin juin. Et ça commence à arriver à partir du 20 août. Donc, on aura tout l'équipement nécessaire si on a besoin de prêter du matériel.
Des tablettes, ça, c'est le fun. Vous en êtes procuré, c'est bien. Puis des ordinateurs, etc. Des profs, ça se procure moins bien. Vous n'avez pas en stock. Vous n'avez pas en stock là, s'il y en a qui tombent malades ou quoi que ce soit.
C'est un enjeu, on s'en cache pas. Avant même qu'on arrive là, avant même l'élection de 2018, on avait un enjeu de pénurie d'enseignants. Oui. Dépendamment d'une région à l'autre, là, c'est pas partout pareil. On travaille là-dessus. Depuis qu'on est là, le taux d'inscription a augmenté dans les facultés de sciences d'éducation, mais ça prend 4 ans là, former un enseignant. Donc, on a bien beau essayer d'aller vite là, quand on tire sur le gazon, il pousse pas plus vite. Non. Mais on a quand même créé des passerelles pour justement accélérer les choses. Donc, quelqu'un, supposons qu'il y a un bac en histoire qui veut devenir enseignant, peut enseigner demain matin, dès la rentrée. On lui confie un groupe. On a créé des programmes maintenant qui permettent de compléter, même à distance et en même temps qu'on enseigne, le parcours pour décrocher son permis d'enseignement. Donc, on a pris des mesures pour contrer la pénurie. Mais ça va quand même être un enjeu. Je ne veux pas le cacher. Là.
D'accord,
ça va être
un enjeu. Dites-moi, il y a un autre enjeu possible. C'est que cette forme d'enseignement-là, pour des étudiants qui ont moins de facilité, je ne parle pas des cas là, que ça prend des spécialistes, là. Mais moi, je ne suis pas très motivé à l'école. Je regarde ça à distance de même. Je ne m'intéresse pas vraiment. Je loafe un peu, comme on dit. Je fox un peu, là, puis, etc. En tout cas, ce qui arrive, c'est que je vais décrocher. Est-ce que tout de suite, vous n'avez pas en place un système qui pourrait dire « Hey, garçon, viens, on va faire quelque chose de spécial pour toi, un genre de classe spéciale. On va ramasser ceux qui tombent du chariot de l'éducation puis on va faire quelque chose, un soutien, un encadrement. »
Ben oui, tout à fait. D'abord, on veut que les jeunes se rendent à l'école. Hein, OK, la place là de nos jeunes et nos ados, là, c'est à l'école. Ceux qui feraient l'éducation à distance, là, ce serait vraiment pour condition médicale. Ou si par malheur, on doit fermer une classe parce qu'il y a une éclosion pendant 1, 2, 3 semaines.
Peu importe le scénario, ceux qui décrochent.
Ensuite, oui, c'est ça. Ben écoutez, on va avoir là une opération, une espèce de blitz pédagogique. On est en train de mettre une dernière touche à ça là, avec mes partenaires de l'éducation, les associations, direction d'école, etc., pour en faire plus là. Donc, on est conscient que c'est pas une rentrée ordinaire, c'est pas une année scolaire ordinaire, non. C'est une année qui suit quelques mois où l'école a été fermée bien souvent. Donc, on veut pas faire la même chose que les années passées, on veut en faire plus. Il reste quelques petits détails attachés, ça va faire partie d'une autre annonce pour dire qu'est-ce qu'on fait pour garder nos jeunes accrochés.
Dernière chose, il me reste 45 secondes. Est-ce que les diplomations vont être à la baisse? Parce qu'il y en a là, qui ont passé leur année, puis on a dit, OK, tout le monde, ça passe, là, on va y laisser aller. Est-ce que ça va être comme ça cette année? Non.
Cette année, on voit l'ensemble du programme scolaire. Si jamais on doit fermer une classe, on continue d'enseigner. Pas question de juste faire de la révision de la consolidation.
Okay.
Et on enseigne 100% du programme. On fait les examens. Donc, pas de nivellement par le bas, aucunement.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Éducation. Bonne continuation. J'espère que vous allez être là pour la rentrée puis les suivis, là.
Absolument, absolument. J'ai jamais été bien loin.
Mais juste pas disponible. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Ah là 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 là. Quelle vie, ma foi. On a-tu déjà fini? C'est incroyable, ça a été toute une émission. Hein? Il y avait toutes sortes d'affaires, les États-Unis, le Liban, le Québec, lequel est en difficulté, on ne le sait pas. Au revoir tout le monde, on se retrouve demain évidemment pour une autre émission. J'espère que vous avez apprécié et que vous serez au rendez-vous. Au revoir.